Bonsoir, frères et sœurs. Je voudrais vous inviter à faire avec moi une première lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18. Verset 21, Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. » C'est pourquoi, dans une journée ça, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Amen. Je voudrais que nous fassions une deuxième lecture, 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. 2 Rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait. » Je voudrais que nous allions verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme. D'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna auprès de l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Ceux qui étaient là jeudi, on avait partagé sur ce même texte et nous avons parlé de la lèpre et que des conséquences de la lèpre dans la vie d'un homme qui est, ou d'une femme qui est atteint de la lèpre, et nous avons fait le parallèle entre la lèpre et le péché. Et nous avons vu combien cet homme atteint de la lèpre, eh bien, lorsque la jeune fille d'Israël lui a dit d'aller à Samarie voir le prophète, cet homme, il a pris avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman, c'est l'image de tous les hommes qui pensent que par leurs efforts, ils peuvent atteindre le ciel, acheter le ciel. Dans ce texte que nous avons lu, nous voyons que Naaman a certainement voulu, parce que certainement pendant toute sa vie, pour arriver à un certain niveau ou pour avoir quelque chose, il a certainement dû toujours payer, faire des efforts pour devenir général de l'armée de Syrie. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient général. Il a certainement gravi les échelons, et pour gravir ces échelons, il n'a certainement pas passé son temps à coincer la bulle ou à tourner les pouces ou à se, comment on peut dire ça là, se faire pistonner. Non, c'est certainement un homme qui a dû faire des efforts toute sa vie pour arriver au niveau où il se trouve, à ce niveau où il discute presque égal à égal avec le roi, et où certainement dans toutes les décisions qui concernent le royaume, il est consulté. Naaman, c'est quelqu'un dans la société. Mais il y a un mais, voilà. Il y a un hic, il y a un bémol, c'est que cet homme est atteint de la lèpre. Et la lèpre, quand elle atteint une personne, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir quelqu'un qui est atteint de la lèpre, mais moi j'ai vu des gens atteints de la lèpre. Voilà. Lorsque la lèpre atteint le visage, la personne, elle est complètement défigurée, au point que si on ne l'a pas vu depuis tout un temps, on peut ne pas savoir qui c'est la personne, ne la reconnaître. Donc, il y a comme une perte d'identité. La personne habite à part de ceux qui sont, on dit comme ça, sains, ne sont pas malades, etc. Et quand on visite cette personne, eh bien, il faut faire très attention, etc. C'est vraiment une des maladies les plus terribles, la lèpre. Cet homme et en est atteint, et certainement, je ne sais pas si chez les Syriens, le traitement de la lèpre, c'est le même que chez les Juifs, voilà. Mais apparemment, cet homme, il continue à vivre dans la société. Mais dans la société juive de l'époque, lorsque quelqu'un est atteint de la lèpre et qu'il est reconnu qu'il est atteint de la lèpre, il est séparé. Pour éviter toute contagion, pour les problèmes d'hygiène, etc., il est déclaré impur, avec toutes les conséquences que cela peut avoir dans la vie de cette personne. Cela nous amène à l'histoire du péché, que le péché nous sépare de Dieu, nous prive de la gloire de Dieu, le péché nous mène à la mort, le péché, il a des conséquences terribles dans la vie de l'humanité, les méchancetés qui s'expriment sur la face de la terre sont les conséquences de la présence du péché au niveau de l'humanité, de tous les hommes sans exception, et la parole de Dieu nous fait connaître que tous les hommes empêché, il n'y a même pas un seul juste. Et dans ce texte, nous avons vu que Naaman parce qu'il a reçu ce message de cette jeune fille. Béni soit Dieu pour cette jeune fille, qui malgré sa captivité, elle continue de porter en elle cette semence de vie et de la répandre et de faire connaître à celui qui est son maître que s'il allait à Samarie auprès du prophète, il trouverait la guérison. Élisée veut dire Dieu est sauveur. Voyez? Naaman veut dire agréable. Voyez? Mais quand la lèpre atteint une personne, ce n'est pas agréable du tout. Comme quoi le péché, quand il s'exerce dans la vie de l'homme, il défigure l'humanité. On ne reconnaît plus. Est-ce que c'est encore des hommes? C'est des questions qu'on peut se poser parfois quand il y a des carnages qu'on entend, etc. On se demande, mais où est Dieu? Est-ce que ce sont encore des hommes qui agissent ainsi à l'égard d'autres enfants ou des hommes, des femmes qui n'ont rien à voir apparemment avec l'histoire qui se passe? Ce sont les choses que nous voyons tous les jours, hélas, eh bien, lorsque nous ouvrons la petite fenêtre, eh bien, les nouvelles, eh bien, on est inondé de tout ce type de nouvelles. Ben, dans ce que va apporter Naaman, il y a une instruction que nous pouvons recevoir. Il va apporter 10 talents d'argent, soit 500 kilos d'argent. La valeur d'aujourd'hui donnerait à peu près 325 000 euros. 6 000 sicles d'or, soit 100 kilos d'or, valeur estimée aujourd'hui 3 200 000 euros. Et 10 vêtements de rechange. Quand on voit à l'époque pour tisser un vêtement, il n'y a pas de machine, hein. Tout est à la main, et que certainement pour un vêtement, je ne sais pas combien de jours, combien de semaines il fallait. Donc quand quelqu'un possédait un vêtement, je peux vous dire qu'il en gardait pour un bon bout de temps, hein, avant de l'envoyer à Emmaüs ou aux chiffonneries, voilà. Voilà, il va être raccommodé, re-raccommodé, etc. Parce qu'à cette époque-là, c'est vraiment cher. Mais ces trois choses, l'argent, l'or et le vêtement, nous parlent de trois choses en ce qui concerne le salut. C'est pour cela que tout à l'heure, on a lu en préambule Matthieu chapitre 18. Et avec l'argent, on achète. Hein? Vous conviendrez. Hein? Voilà. Dans l'histoire de Matthieu chapitre 18, il nous est parlé d'un serviteur qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. À l'époque, un talent équivaut à 6 000 journées de travail. La valeur de 6 000 journées de travail. Donc, 10 000 talents équivaudrait à 60 millions de journées de travail. Et si on ramène un petit peu à nous aujourd'hui, on travaille à peu près 20 jours par mois, sans compter les week-ends. Hein? Voilà, si on fait à peu près 20 jours par mois, ce qui nous amène à peu près à 240 jours de travail dans l'année. Donc, si on fait ce calcul rapide, hein, 10 000 talents équivaudraient donc à 250 000 années de travail. Voilà. Vous avez vite compris, les frères et sœurs, que la dette était impossible à rembourser. Elle est énorme. Mais dans le texte de Matthieu 18, il nous parle en ce qui concerne le pardon. Hein? Que le pardon n'a pas de coût. Le prix est trop élevé pour que nous puissions le payer. Et ici, dans l'histoire de Naaman, il vient avec de l'argent. 350 000 euros, si on se rapporte à aujourd'hui. Ça veut dire une somme 21 000 fois inférieure à ce qu'il nous est parlé dans Matthieu, chapitre 18. 100 kilos d'or, soit 2100 fois inférieure à la somme que nous avons vue. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans cette histoire de Naaman, Élisée a refusé que Naaman lui fasse des présents. Vous voyez? C'est pour nous amener à comprendre, frères et sœurs, et amis qui êtes là, que lorsque l'homme a été séparé de Dieu suite à une rébellion, à une résistance, Jésus nous explique dans un langage que nous pouvons comprendre que la dette que cela constitue est tellement énorme qu'on ne peut pas payer. Impossible humainement de payer cette dette. Et si Dieu nous révèle que le rachat de notre vie, nous ne pouvons pas, c'est que c'est la vérité. Nous pouvons choisir de croire ou ne pas croire, mais ça ne change rien du tout. On ne peut pas nous-mêmes nous réconcilier avec Dieu avec nos efforts. Gagner le ciel avec nos efforts. L'argent nous parle du rachat. Et souvent dans l'évangile, dans les évangiles et dans la Bible, on parle du droit de rachat. Le droit de rachat, c'est quand il y a une famille qui est en difficulté et bien souvent quand l'homme décède et qu'il n'a pas de descendants. Et que l'héritage, pour des problèmes d'héritage, il faut que ce soit le membre de la famille le plus proche qui rachète cet héritage. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que quand il rachète cet héritage, il ne le rachète pas pour lui. Il rachète l'héritage et les dettes, s'il y en a eu, pour la descendance du défunt que lui-même, il va être l'auteur de cette descendance. C'est-à-dire qu'il va épouser la veuve, et si la veuve a un garçon, eh bien ce garçon ne portera pas son nom, mais le nom du défunt. Vous comprenez? Que le droit de rachat, il ne rachète pas pour lui, mais il rachète pour la descendance de celui auquel il vient au secours. Et en plus, il va entretenir cette famille pendant toute sa vie, comme si c'est sa propre famille. Ceci pour nous amener, pour nous éclairer en ce qui concerne l'œuvre de Christ à la croix. Que, frères et sœurs et amis, il n'y a pas possibilité de réconciliation avec Dieu sans une intervention divine. Quand les apôtres diront à Jésus, « Mais qui peut être sauvé ?» Il répondra, « À Dieu, tout est possible. » Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes de se sauver lui-même. C'est ce qui fait, et la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le salut, la guérison, la délivrance, Dieu nous offre, mais il en a payé le prix. Pour nous éclairer un peu plus, J'ai lu il y a très longtemps une histoire qui s'est passée en Angleterre dans un quartier pauvre. Et là, un poissonnier vient avec du poisson et il vend. Il est au milieu du quartier et il fait à la criée, il appelle les gens à acheter le poisson. Et il est très bon le poisson, mais les gens passent, mais personne qui achète. Alors là, quelqu'un vient et il dit à ce jeune homme, les gens, ils ne peuvent pas acheter malgré le prix, parce qu'ils sont très pauvres. Et il dit, mais pourtant c'est du très bon poisson. Oui, c'est du très bon poisson, mais les gens ne peuvent pas l'acheter parce qu'ils sont très pauvres. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas la possibilité de l'acheter. Alors cet homme a acheté toute la cargaison. Et il dit, maintenant ensemble, on va appeler les gens pour leur dire de venir gratuitement. Voilà. Donc, ils ont appelé les gens pour dire poisson gratuit. Des gens ont entendu, ils sont venus. D'autres, ils n'ont pas cru. Et quand ils se sont décidés à venir, il n'y en avait plus. Et ils ont pensé que c'était une farce, un attrape-nigo. C'est pour nous expliquer une chose, frères et sœurs, que Dieu a déjà payé le prix. Parce que nous sommes trop pauvres pour payer le prix de notre réconciliation avec lui. Oui, lorsque l'homme s'est rébellé contre Dieu, a désobéi, c'est un acte de rébellion qui demande répression, condamnation. La Bible dit, c'est le Seigneur qui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a donc une malédiction qui pèse sur l'homme, une condamnation qui pèse sur lui, en raison de cet acte de rébellion, de résistance. Et pour cela, nous l'avons vu, que le retour à Dieu dans le jardin, la Bible nous dit que à la porte d'Éden, Dieu a mis des anges pour garder avec un épée flamboyant. Ça veut dire que le retour est impossible, c'est fermé. Mais la Bible nous dit que la colère de Dieu qui nous était réservée, c'est Christ qui l'a pris sur lui. Alors, il nous est certainement difficile dans le monde actuel de saisir, de comprendre, mais peut-être qu'au travers des films, on essaie de se rapprocher de la réalité des choses, de ce qui se passe, mais le film de la Passion, ce qui se passe, nous éclaire en ce qui concerne l'atrocité de ce que le Christ a vécu. Mais comprenez-le, que ce qu'il a vécu là, c'est quelque chose qui normalement nous est réservé. Mais du fait que nous sommes dans l'impossibilité de vivre cela, Dieu a pris sur lui-même la condamnation qu'il a prononcée pour que nous ne soyons plus sous le coup de la condamnation. Et la Bible nous dit ceci, que celui qui croit, il est sauvé. Mais celui qui n'a pas cru, la condamnation de Dieu demeure toujours sur lui. Et que Dieu a réservé pour ce monde et pour tous les hommes un jour où il jugera l'ensemble des hommes par l'homme qu'il a choisi, à savoir le Seigneur Jésus. Dans l'histoire de Naaman, nous voyons que là, la deuxième chose qu'il a, il y a les talents d'argent, et puis il y a les talents d'or. L'or nous parle du ciel. Vous voyez? L'or nous parle du ciel. Et je voudrais vous amener également à comprendre ceci. C'est que la désobéissance dans le jardin d'Éden a séparé l'homme de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a chassé Adam et Ève. On est chassé de la présence de Dieu. On est privé de la gloire de Dieu. Et le fait d'être chassé de la présence de Dieu, d'être privé de la gloire de Dieu, a des conséquences dans notre vie. Et tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui de mal, etc., c'est la conséquence du fait qu'on est séparé de Dieu. Il n'y a plus en nous l'image de départ. Parce que au départ, Dieu créa l'homme à son image. Nous avons perdu au moment de la désobéissance l'image de Dieu. Dieu a quitté l'homme. Dieu s'est séparé de l'homme. Et du fait d'être séparé de Dieu, eh bien, il y a des conséquences dans notre vie. L'une des conséquences qu'il faut réaliser et comprendre, c'est que c'est une chute vertigineuse. Vous voyez ? On vivait dans la présence de Dieu. On jouissait de tout. Mais lorsque l'homme a été séparé de Dieu, il a fait une chute. Et tout à l'heure, le frère, dans les commentaires au niveau des chants, il parle de l'église d'Éphèse, dont il nous est décrit dans le livre de l'Apocalypse, que du fait du manque d'amour, c'est une chute. Mais manque de Dieu, c'est encore pire que cela. Est-ce que nous vivons et subissons tous les jours dans notre vie de tous les jours? Et ce monde est sous la condamnation. C'est un monde de rébellion et de résistance contre Dieu. Qu'on soit d'accord ou pas, ça ne change rien à la chose. Mais vous remarquerez que si on fait des démarches pour une action d'évangélisation, etc., il va y avoir des tollés et des levées de boucliers partout. Vous voyez? Mais un concert de rock ou quoi que ce soit, c'est accepter les bras ouverts avec toutes les conséquences que cela va avoir pour notre ville, les magasins, etc., ce qui va se passer, etc. Vous voyez? Parce que le monde est en rébellion et en résistance contre Dieu. Mais, pour amener cette réconciliation avec Dieu, si la séparation d'avec Dieu a été un acte de désobéissance, la Bible nous dit que par l'obéissance d'un homme, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, Christ, par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, nous a réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous croyons que Christ a porté notre place et que nous croyons à son œuvre à la croix, alors nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais plus que cela, la Bible nous dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même au travers de Christ. Mais Paul dit également que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous comprenez que le poids de nos séparations, le poids de notre péché, le poids de notre rébellion contre Dieu, c'est Dieu qui en a prononcé la condamnation, la sentence, le jugement. Mais du fait que nous sommes dans l'impossibilité de subir cela, de vivre cela pour être sauvés, eh bien, Dieu lui-même s'est substitué à chacun d'entre nous, afin que le jugement qu'il a prononcé, c'est lui-même qui le prend sur lui, et ainsi nous libérer de la condamnation. Lorsqu'un homme, une femme croit que Jésus est mort pour lui, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est recréé. Et cette œuvre, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je voudrais souligner également que, au moment de la séparation de l'homme avec Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu a pris soin de mettre dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et lorsqu'on étudie toutes les civilisations du monde, on se rend compte qu'ils ont toujours cherché un Dieu. Si bien que on comprend que l'homme, c'est quelqu'un de religieux qui cherche Dieu. Mais il cherche dans le mauvais sens et il adore la création au lieu de chercher le Créateur. Ceci nous amène à comprendre qu'il n'y a qu'un acte divin, il n'y a que par l'intervention de Dieu. Et la Bible nous dit, vous avez été régénérés par la parole vivante, par la parole de Christ. Il n'y a que quand on croit et qu'on reçoit la parole de Dieu, que cette pensée de l'éternité, eh bien, est repositionnée dans la vérité. Et alors là, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. La troisième chose que nous avons vue tout à l'heure, c'est que Naaman est venu avec des vêtements. Vous voyez ? Le vêtement, souvent dans la Bible, il nous parle de la justice. Vous voyez ? Nous serons, tout à l'heure le frère il a parlé dans le commentaire en ce qui concerne le chant, nous serons revêtus de vêtements blancs. Ça nous parle de ceux qui ont été justifiés, rachetés par Dieu. Alléluia. Oui, les vêtements. Et ici, Naaman, dans ce qu'il vient, eh bien, il vient avec des vêtements. Mais ça nous parle du fait que Naaman, avec son argent, avec son or, avec tous les efforts de justice qu'il peut faire, il ne peut pas gagner le ciel. Et nous non plus. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Voilà, la Bible nous dit ceci. Si par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais il y a une condition, que tu l'acceptes. Naaman, au commencement, il a dit, quand il est arrivé, c'est même pas le prophète qui est sorti. Lui, général. Hein? Imaginez que, je ne sais pas, je dis peut-être une... Mais imaginez qu'on invite et puis que le président, il vient ici à l'église de Saint-Agne et que c'est quelqu'un qui balaye la salle, qui veut le recevoir avec le balai, le seau, en train de passer le mop. Il sera peut-être un petit peu tiqué en ce qui concerne... Hein? Ben, c'est ainsi en ce qui concerne Naaman. Il arrive, c'est même pas le prophète qui sort pour le recevoir. Il envoie quelqu'un, un serviteur, pour lui dire, va te laver cette fois dans le Jourdain et tu seras pur, tu seras guéri. Mais combien de gens, ils se sont baignés dans le Jourdain, des lépreux aussi, mais ils n'ont pas été guéris. Pourtant, c'est ce que Dieu au travers de son serviteur, dit à Naaman, va te laver cette fois et tu seras pur. Alors Naaman est parti, pas content. J'espère que cet après-midi, à l'écoute de ce message, ça peut arriver que ça ne correspond pas à ce qu'on a vu. Lui, il s'est dit, eh bien, il va sortir, il va invoquer son Dieu, il va faire des gestes à droite, à gauche, etc. Et puis, comme il a certainement vu faire dans son pays, et puis le lépreux que je suis va être guéri. Non, Dieu n'agit pas de la façon, voyez, c'est pas nous avec, on peut pas enfermer Dieu dans notre façon de comprendre et de concevoir les choses. Dieu est plus grand que cela. Ce que Dieu cherche dans notre vie, c'est la foi et l'obéissance. Est-ce que tu es prêt cet après-midi à obéir et à placer ta foi en Dieu? C'est ça qui va te conduire à la libération et à la délivrance. Heureusement qu'il y a toujours des bons conseils qui vont ramener Naaman à la raison, si bien que, eh bien, Naaman va quand même descendre. Mais pour parler de la justice, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ou il nous dit également, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit également, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il dit également, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire le salut qui est en Jésus-Christ. Il nous a sauvés non à cause des œuvres que nous aurions faites, mais seulement à cause de sa miséricorde. Dieu ne veut pas nous traiter selon nos fautes, mais il veut nous accorder grâce. Dieu veut te faire grâce. Et j'essaie au travers de cette prédication de nous amener, de vous amener à prendre la bonne décision. Parce que si c'est vrai que le salut est gratuit, mais il est gratuit parce que Dieu lui-même a payé le prix. Dieu n'a pas décidé simplement que c'est gratuit, je remets la dette. Non, il a payé le prix de notre libération. Et je voudrais ajouter ceci. Le prix de notre libération, ce n'est pas l'ennemi qui nous tient en esclavage qui en a fixé le prix. Voyez ? C'est Dieu lui-même qui fixe le prix de notre libération, de notre délivrance. Et lorsqu'on a accepté, cru au sacrifice de Christ, le problème du péché, il est réglé dans notre vie. Et quand le problème du péché, il est réglé dans notre vie, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu, alors les conséquences de la présence, de la présence du péché dans notre vie sont également réglées. Donc, si nous faisons des efforts pour corriger notre caractère, etc., on peut, mais ça ne durera pas. On a pris des résolutions le 1er janvier, mais le 3 janvier, c'est fini déjà, les bonnes résolutions. Là. On voit que notre caractère, il a pris le dessus. Parce que on est des pécheurs. Plongez cette fois dans le Jourdain. Mais avant de parler de plonger cette fois dans le Jourdain, je parle de du fait de la justice de Dieu. Ce serait trop long de parler de ça, mais la justice, le jugement, la condamnation, je l'ai dit tout à l'heure, Christ l'a pris sur lui par son œuvre à la croix. Et quand nous croyons, eh bien nous entrons dans la justice de Dieu. Justice a été faite pour nous. Et comment cela peut-il se faire? C'est ce qui nous est expliqué ici quand on dit à Naaman, va plonger cette fois dans le Jourdain. Voilà. Le Jourdain, nous avons vu la dernière fois, puis M. Go a complété également cela pour nous dire que le Jourdain nous parle de deux choses, de l'engagement et de l'œuvre de la croix. Christ, au commencement de son ministère, a été baptisé dans le Jourdain, faisant ainsi de Jourdain l'image de la croix. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous nous engageons par la foi en Jésus-Christ, nous entrons dans l'obéissance et la foi. Parce que c'est Christ qui a ramené l'obéissance dans la vie de l'homme par l'œuvre de la croix. Voilà. Eh bien, cette œuvre d'obéissance de Christ, eh bien, elle devient, cette œuvre devient la nôtre et nous bénéficions de toutes les grâces qui y sont incluses. Deux choses vont ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, l'obéissance et la foi. Cette foi, pourquoi ? Le chiffre 7 nous parle de la perfection, c'est-à-dire que le salut de Dieu, c'est un salut parfait. Il n'y a rien à rajouter ni à retirer. Il est parfait. Cette foi également nous parle de l'œuvre continuelle de l'œuvre de Christ dans notre vie. C'est une œuvre qui continue tout le long de notre vie. Voyez? Voilà. Vous verrez, et je pense que si je demande ici ce soir des témoignages, il y en a qui rendront témoignage, qu'il y a des choses. Du jour au lendemain, ils en ont été délivrés, libérés. Mais il y a des choses qui ont persisté. Il a fallu combattre. Il a fallu persévérer. Eh bien, il nous parle de cette œuvre de continuelle dans notre vie et il nous parle également de la persévérance. Je terminerai en disant que la gratuité, c'est que quelqu'un l'a payée pour qu'elle soit gratuite pour nous. Nous l'avons vu tout à l'heure. Maintenant, quelle est votre réponse? Quelle est votre décision? Christ, sur la croix, nous a libérés du pouvoir du péché. Il nous a libérés de l'autorité de que l'ennemi, Satan, exerce sur nous. Et la Bible nous dit qu'il a porté nos maladies, nos infirmités. C'est pourquoi nous pouvons prier pour les malades. Et il nous a donné de remporter la victoire sur l'esprit du monde. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et de grâce, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ces moments où nous avons partagé ta parole. Parce que nous croyons que lorsque, Seigneur, tu parles, tu ne parles pas pour les absents, tu parles pour ceux qui sont présents. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui peut confirmer cette parole dans les cœurs pour donner à celui ou à celle qui n'est pas encore réconcilié avec toi ou qui a besoin, Seigneur, d'être encouragé, d'être fortifié dans cette marche, Seigneur, de saisir par la foi l'œuvre de la croix et de persévérer dans cette œuvre, Seigneur, afin de bénéficier pleinement de toutes les grâces et de toutes les bénédictions que tu réserves à ceux qui se confient en toi.